Bonjour Marie-Toussaint.
Bonjour.
Les experts de l'AIEA ont pu commencer hier leur inspection de la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine. Le chef de la mission affirme que l'intégrité physique de la centrale a été violée de manière délibérée. Il ne désigne pas de responsable et ne précise pas non plus d'ailleurs l'ampleur des dégâts. L'AIEA souhaite maintenir une présence durable sur le site. Est-ce que vous pensez que cela pourra limiter les risques d'un accident majeur sur ce site ?
Oui, bien sûr. En tout cas, il le faut. Il faut que la communauté internationale soit en capacité de trouver des solutions pour essayer de préserver ces centrales qui, effectivement, elles explosent, si on est dans le cas d'un accident, ça ne concerne pas que la centrale, ça ne concerne même pas que l'Ukraine, mais ça concerne tout le monde bien plus largement. Et on connaît les dangers des centrales nucléaires. Il y en a plusieurs en Ukraine. Celle-ci est l'une des plus grosses et plus dangereuses. Donc il faut vraiment
qu'on... Quand vous dites qu'il faut que la communauté internationale soit en mesure de trouver des solutions, à quoi pensez-vous ? Quel type de solution ?
La présence de l'AIEA est une bonne chose. Elle doit nous permettre aussi d'avoir des données de la transparence. Moi, ce qui m'interpelle, c'est deux choses. D'une part, ça nous montre quand même à quel point nous devons réformer les Nations Unies. Parce que, notamment, l'envoi de casques bleus, qui a été demandé par M. Zelensky, est impossible tant que la Russie aura un droit de veto au sein de l'Union européenne. Donc il faut trouver des solutions. L'AIEA...
Au sein de l'ONU, hein, pas au sein de l'Union européenne. Le droit de veto.
Oui. C'est bien que vous me repreniez.
Oui, non, mais comme ça...
Mais c'est important. Puis la deuxième chose, c'est que ça doit quand même nous interpeller sur la sûreté. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine était impensable. Alors, il y a quelques années, si, mais il y a 10 ans, on ne pensait pas que ça pouvait se passer à nouveau. Et donc, ça doit nous interpeller parce que la paix n'est jamais une garantie éternelle et que nous sommes toujours en situation de pouvoir retomber en état de guerre, ce qu'il nous faut absolument éviter. Mais il nous faut aussi être sûr que nulle part, et y compris en France, nous ne prêtions le flanc à de telles attaques.
Le premier conseil de défense consacré à l'énergie va se tenir aujourd'hui. Ce format que l'on a déjà connu pendant la crise sanitaire du Covid vous paraît-il adapté à la situation ?
Écoutez, il y a une chose qui est certaine, là aussi, c'est qu'il faut agir. Il faut agir vite. Je vais vous raconter un peu historiquement où on en est, hein. Mais ça fait presque 50 ans maintenant que nous connaissons le dérèglement climatique, ses raisons, et que nous peinons à sortir des énergies fossiles, notamment du pétrole et du gaz. Ça fait aussi 22 ans que l'Union européenne dépend à 40% du gaz russe et qu'elle annonce vouloir en sortir. Or, nous sommes aujourd'hui en 2022 et nous en sommes dans la même situation vis-à-vis du gaz russe qu'il y a 22 ans quand nous avons commencé à dire que nous voulions en sortir. Donc il y a une importance d'agir. L'Union européenne est en train de se réunir et de prendre des mesures. En France, on a aussi besoin d'une accélération et d'une organisation qui mette au premier plan cette question de la transition, en premier lieu desquelles celle des énergies fossiles.
Mais est-ce que ce Conseil de défense, auquel on a reproché pendant la crise du Covid d'être finalement une instance très restreinte, où les décisions sont prises en comité très réduit autour du président de la République, est-ce que cette instance vous semble adaptée à cette situation d'aujourd'hui ? Est-ce qu'au fond, il faudrait admettre que l'urgence et la gravité de la situation justifient ces décisions prises en comité très restreint ?
La transition écologique, elle doit être menée dans la démocratie, avec tous les corps possible de la France. Quoi. On a eu une initiative qui était pleinement démocratique, très inclusive, qui était la Convention citoyenne pour le climat, qui a proposé 150 mesures. Il n'en reste presque rien aujourd'hui. Donc je préférerais que ça se passe effectivement dans un cadre plus large.
Est-ce qu'on a le temps, là, ce temps du débat, ce temps de la concertation, est-ce qu'on l'a ?
Elle a été faite, la concertation.
Non, mais sur les questions d'énergie.
La concertation, elle a été faite. Je pense qu'il y a de nombreuses mesures, depuis le Grenelle de l'environnement au moins, donc ça fait un petit bout de temps, qui ont été co-construites avec les associations, avec les entreprises, avec les citoyennes et les citoyens. Il faut les appliquer. Que Emmanuel Macron mette en place un conseil de défense de l'énergie.
Il y a une crise d'approvisionnement qui est nouvelle.
Tout à fait. Mais il faut avancer. Donc, il faut qu'ils avancent. Voilà. L'urgence, c'est d'agir. Maintenant, tout ce qui sortira de cadre fermé, mais qui associera la société sera d'autant plus importante.
Dans ce contexte donc de crise de l'énergie, la chef du gouvernement a affirmé mercredi soir que la transition écologique et la planification écologique restaient des priorités pour le gouvernement. Est-ce que ce sont des propos qui vous rassurent ?
Oui, et c'est essentiel. Et quand j'ai entendu la première ministre s'adresser au MEDEF, j'ai aussi entendu quelqu'un qui mettait vraiment sur la table, comme une priorité, cette question de la transition. Derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment ça la question, qu'est-ce qu'on fait ? Or, on a de nombreuses sources de réduction de consommation. Je crois que c'est vraiment la priorité. La meilleure des énergies est celle qu'on ne consomme pas. C'est un peu comme les déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Bon, bah, la consommation d'énergie, c'est pareil. Il faut absolument réduire. Et il faut réduire, non pas de manière conjoncturelle, parce qu'on entend beaucoup dire il faut que cet hiver, nous trouvions des solutions. Mais la question, c'est pas cet hiver, c'est comment nous transformons nos modes de vie et surtout nos modes de production pour réduire durablement l'énergie.
Il y a des impératifs de court terme aussi, non ?
Tout à fait, mais je résonne à la fois sur le court et sur le long terme. Je vous prends un exemple. 64% du gaz utilisé dans l'industrie aujourd'hui dans l'Union européenne pourrait être remplacé par des pompes à chaleur. Ça prend zéro temps. En réalité, hein, on aurait pu le faire depuis février, on aurait pu engager ce grand mouvement pour mettre plusieurs millions de pompes à chaleur dans l'Union européenne.
Les pompes à chaleur sont alimentées par de l'électricité.
Oui, mais ça résout le problème du gaz.
L'électricité qu'on produit par le nucléaire en France.
Aujourd'hui, dont il faut également sortir et le remplacer par des renouvelables, ce qui est aussi possible. Bon, mais en tout cas, 64% peut être remplacé. Donc ça peut être des initiatives qu'on prend très vite et qu'on prend non pas seulement de manière incitative auprès des entreprises, mais où on peut contraindre également l'industrie à changer ses méthodes de production. On a aussi eu des débats cet été sur les enseignes lumineuses la nuit. Bon, il se trouve que les objectifs de rénovation des bâtiments depuis le Grenelle de l'environnement, que des lois sur l'encadrement des enseignes lumineuses la nuit depuis déjà une dizaine d'années, ou encore que les panneaux lumineux électriques, vous voyez les panneaux publicitaires. Un panneau publicitaire, c'est la consommation de 4 ménages. Donc dans la réalité, on peut réellement, et de manière structurelle et durable, aussi bien que de court terme, changer notre consommation d'énergie.
Les Gilets jaunes pourraient faire leur retour la semaine prochaine. Un appel à manifester à Paris le 10 septembre est abondamment relayé sur les réseaux sociaux. Est-ce que, d'après vous, toutes les conditions sont réunies pour un retour en force de ce mouvement ?
Il y a une vraie colère dans le pays, une vraie aspiration à un changement et à plus de démocratie. On en revient à cette question du Conseil de l'énergie. Mais ce qui se passe doit vraiment entraîner des changements politiques majeurs. Et ce que disent les Gilets jaunes, c'est nous voulons la justice sociale, nous voulons le respect et la dignité, et nous voulons aussi la transition, parce que ça fait aussi partie de ce qu'il souligne. Ça fait un peu écho à ce qui se passe au Chili, et je crois que ce week-end, il y a un événement majeur pour l'ensemble du monde et de la planète. Ce dimanche sera présenté au peuple chilien, par un référendum avec vote obligatoire, une nouvelle constitution. Cette constitution est issue des mobilisations sociales, notamment des plus jeunes, des lycéens et des étudiants, pour des transports accessibles, collectifs, donc propres. Et il pourrait donner lieu à une constitution, après une assemblée constituante, qui reconnaisse ce droit à la dignité, qui favorise la justice sociale, qui reconnaît aussi les droits du vivant et appelle à une action climatique juste. Je crois que ce qui se passe au Chili doit vraiment inspirer notre action ici en France et en Europe. Et Emmanuel Macron devrait plutôt les écouter.
C'est donc la rue qui peut faire avancer la démocratie.
Pas seulement, mais elle joue un rôle important dans notre démocratie aujourd'hui.
Merci Marie Toussaint, bonne journée.
Vous.